Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Trentième et penultième émission de Feuilles Vives, le 7 juillet dernier, la commune de Mer organisait sa première fête de l'écomobilité. Je m'y rends tout seul, dans ma voiture, un superbe objet de 9 quintaux servant à transporter mes 65 kilos tout mouillés. Bref, un modèle d'efficacité énergétique et d'utilisation raisonnée de ressources limitées. Mer, on s'y arrête rarement. On y passe pour aller de Blois à Orléans ou d'Orléans à Blois en train, en voiture ou par les chemins balisés de la Loire à vélo. Cinquième ville la plus peuplée du département, elle est située sur la marge sud de la Petite Beauce. Pour les habitants de ce territoire à l'habitat morcelé, à la population vieillissante et à l'économie morose, Mer constitue un pôle de services commerciaux, médicaux, administratifs, où l'on se rend forcément en voiture. Les modes de déplacement constituent donc un enjeu crucial pour limiter la pollution de l'air et la consommation d'énergie fossile sur mer et son territoire. On écoute la volubile chargée de mission sur le développement durable Cécile Greffion et la plus discrète adjointe au maire sur ce même thème, Nathalie Pommier.
Donc l'écomobilité, c'est tous les moyens de se déplacer autrement qu'en étant seul dans une voiture. Une voiture diesel ou essence. Voilà. Donc en gros, c'est se déplacer à plusieurs. Donc faire du covoiturage, c'est partager des voitures, l'autopartage, c'est se déplacer à pied, se déplacer à vélo, qu'il soit électrique ou pas, en trottinette.
C'est également l'exemple pour se rendre à l'école, ne plus prendre le bus, mais faire le pédibus. On a lancé 3 lignes la semaine dernière en essai.
C'était
un résultat plus que positif. On espère que ce sera pérenne à partir du mois de septembre.
Et puis voilà, l'idée c'est vraiment, derrière ça, c'est à la fois réduire nos émissions de gaz à effet de serre, réduire la pollution de l'air, et puis remettre les gens un peu à être actifs. Donc pour la santé, c'est tout positif. Voilà, c'est un peu notre but. Donc l'idée vient bien sûr du fait qu'on soit en plein plan climat, là, sur les deux communautés de communes, Beauce-Val-de-Loire et Grand-Chambord. Puis la ville de Mer, ça fait un moment qu'on est engagé sur ce sujet. Donc à la fois dans les achats de vélos électriques, voitures électriques, et puis avec le pédibus à l'école. Voilà, c'est une question qui nous qu'on s'était emparé en interne et qu'on voulait diffuser un peu au grand public avec cette fête. Les territoires ruraux, on est très dépendant de la voiture et clairement, on a du mal à trouver des solutions genre transport en commun. On ne peut pas nous mettre ça en place sur nos territoires. Donc on a besoin d'être innovant. Donc l'innovation, ça va être ça. Ça va être l'autopartage, ça va être faire de la location de vélos électriques. À la mairie, on est en train d'étudier la possibilité de mettre en place une subvention pour que les gens puissent acheter des vélos électriques. On va certainement mettre un garage sécurisé à la gare pour que les gens garent leurs vélos. Enfin voilà, on est vraiment là-dedans et effectivement, on a besoin d'avoir des solutions un peu nouvelles qui sont en train d'émerger, en tout cas chez nous. Et l'idée, c'était vraiment de les faire connaître à travers cette fête. Donc c'est à la fois le covoiturage, les voitures électriques, le vélo électrique, trottinette. Enfin voilà, c'est remettre un peu tout ça au goût du jour. Et donc c'était permettre aux gens à la fois de découvrir et puis d'essayer. Donc on a des essais de vélos. On fait notamment nous essayer les vélos de la ville parce qu'on a acheté 3 vélos électriques à la ville et à la communauté de communes. On fait aussi, on présente un véhicule électrique qui est aussi à la commune. Et puis il y a des concessionnaires locaux qui sont là. Donc on a 100% bike qui est de Muide, on a Peugeot, on a Renault qui sont de Mer. Et puis après on a pas mal d'assos qui sont là aussi pour promouvoir l'écomobilité. Donc on a l'AMO Rando, on a l'UMDC événement qui va faire une petite balade. Qui va faire 2 petites balades dans Mer sur le thème du nom des rues. Donc c'est histoire de montrer aux gens que voilà, on peut se balader de manière ludique.
Et autrefois, cette statue que vous voyez là était sur la place devant. On l'a déplacée pour mettre un parking. C'est romantique, mais c'est utile.
C'est très content. Ça fait la manie c'est de se promener au milieu de la route. Je vois que je fais pareil, évidemment.
Ce qui est bien dommage, c'est que les piétons sont obligés de descendre de trottoir pendant que les voitures.
Et surtout pour un jour d'écomobilité, on ne peut pas passer avec des appareils. Bon, alors voilà. Alors ici, nous sommes donc avenue Monoury. C'est une artère importante qui va de la gare, que vous voyez là, à la route nationale, que vous ne voyez pas. Donc il y a un peu plus loin. Alors, l'avenue Monoury. Donc cette rue, en fait, elle est liée à la gare. Donc ça d'abord était le chemin de la gare, puis ensuite la route de la gare. Et en fait, en 1871, donc elle vient du boulevard de la gare. D'ailleurs, souvent, les vieux Mérois l'appellent encore le boulevard. Y compris moi, d'ailleurs, je dis souvent que c'est le boulevard.
Ben, moi, souvent, je dis
alors voilà. Alors ensuite, donc, on lui a donné le nom du maréchal Monoury, qui est un des héros de la guerre de 14-18, décoré de la Grande Croix de Légion d'honneur, etc. Alors, pourquoi on a choisi Monoury plutôt que Foch ou autre? Parce qu'en fait, il a une histoire. Il était marié à une fille d'un banquier de Berre.
Il habitait au coin.
Voilà. Oui. Bien. Et puis, il s'est fait construire une maison, la Grand Cour à Herby. Et encore maintenant, ce sont les descendants du maréchal Monoury qui habitent toujours la Grand Cour à Herby. Herby est un petit hameau de mer qui fait partie de la commune, mais nous n'irons pas parce que c'est pas beaucoup de monde. Donc c'est pourquoi on a une avenue Monoury qui est quand même une des artères les plus importantes de la ville. Alors nous allons vers la gare.
La balade des noms de rue organisée par l'association culturelle de Mer se trouve fortement perturbée par une circulation automobile incessante dont le bruit finit par couvrir presque entièrement l'exposé de sa présidente Odette Baucher. Malgré les réalisations et projets de la municipalité en faveur des circulations douces, la ville de Mer reste le paradis de l'automobiliste. Absence de contraintes à la circulation et mitage du centre-ville par une demi-douzaine de grands espaces de stationnement gratuits et bétonnés. Après la visite, les oreilles bourdonnantes de bruit de moteur et les poumons remplis de gaz d'échappement, je me dirige vers la poignée de voitures électriques exposées devant la façade des Halles. Peugeot et Renault, les deux concessionnaires présents sur la commune, sont ainsi les premiers exposants que l'on voit quand on arrive à cette fête de l'écomobilité. Au milieu, trône fièrement la Tesla de Laurent Capillon, conseiller en électromobilité. Présentation d'un métier et d'un véhicule peu connu par chez nous, mais qui aurait, me dit-on, tout l'avenir devant eux.
J'aide les sociétés ou les collectivités à changer, à passer du véhicule thermique au véhicule électrique. J'étudie ce qu'ils font et en fonction de leur usage, je leur dis si c'est possible ou pas possible. Et quand c'est possible, je leur dis pour quelle gamme de véhicules ils peuvent changer et vers quoi est-ce qu'ils peuvent aller. Ensuite, une fois qu'ils ont acheté les véhicules, je leur apprends à conduire le véhicule électrique. Je leur apprends qu'est-ce que c'est que l'ensemble de l'écosystème, les bornes de recharge, les câbles, les vitesses de charge, comment trouver les bornes. Et puis, je leur apprends à conduire un véhicule électrique, car c'est une conduite qui est un petit peu spéciale. Et entre quelqu'un qui sait conduire un véhicule électrique et quelqu'un qui conduit un véhicule électrique comme un véhicule essence, il y a plus de 15 à 20% de différence d'autonomie. Et donc voilà ce que je fais, je traite l'ensemble de la chaîne, depuis l'étude jusqu'à la formation de l'écosystème.
Hop. Ah là là, mais c'est plus grand que ma télé.
Il va falloir changer de télé alors. Pour regarder le match, il va falloir changer de télé. On arrive en demi-finale, il va falloir faire...
Non, j'ai pas de télé. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter ce véhicule? Qu'est-ce que c'est?
Ça, c'est un véhicule américain, c'est une Tesla. C'est un véhicule 100% électrique qui se recharge sur une simple prise de courant, sur les bornes qu'ont installé l'ensemble des syndicats d'énergie français. Il y en a plus de 18 000 sur l'ensemble de la France. Maintenant, on atteint presque les 20 000. C'est un véhicule 5 places avec lequel on est capable de faire entre 300 et 500 km d'autonomie en fonction de la capacité de la batterie.
Et ça fait aucun bruit.
Impressionnant. Ah non, vous n'avez pas de bruit, ce n'est le bruit de la clim. Il n'y a rien d'autre. Alors, comme tous les véhicules électriques, ce type de motorisation Cet avantage, c'est que c'est le seul véhicule qui est capable de refabriquer des kilomètres quand on conduit. Vous voyez, ici, on a une jauge qui nous permet de savoir quand on est en orange, on consomme, savoir à quelle hauteur on consomme. Et quand on lâche le pied, elle freine la voiture et les moteurs deviennent génératrices. Et vous voyez, on rentre dans le vert et en fin de compte, on fabrique du courant qui est réinjecté dans les batteries. Après, c'est un véhicule, comme tous les véhicules électriques, ils sont très très coupleux. C'est des véhicules qui sont très agréables à conduire, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de bruit. Et ils sont très très réactifs sur la pédale accélérateur parce que vous n'avez pas de changement de vitesse à faire, vous voyez. Et du coup, c'est un véhicule qui est très agréable parce que il est très simple à conduire. Il faut savoir qu'un véhicule électrique, en vérité, il n'y a plus d'entretien. À part changer les pneus, les balais d'essuie-glace, c'est tout ce que vous avez. Étant donné que quand vous levez la pédale d'accélérateur, la voiture freine toute seule. Donc quand on conduit normalement, on ne se sert quasiment jamais du frein, si ce n'est pour s'arrêter au stop. Quoi. Ou pour freiner en cas d'urgence. Voilà. Et plus d'entretien, parce que vous n'avez plus de vidange, plus de courroie de distribution, plus d'embrayage, plus de bougies à changer. Vous n'avez rien du tout. Il n'y a que les batteries. Et les batteries, aujourd'hui, ben les batteries, elles ne s'usent pas. Aujourd'hui, c'est ce véhicule à 89 000 km. À 80 000 km, j'ai fait tester la batterie pour savoir combien elle avait perdu d'autonomie et de charge. Et elle avait perdu 1,6%. Rien. Voilà.
Et j'avais vu qu'au niveau des minerais qui étaient nécessaires à la fabrication des batteries, si Tesla remplissait son carnet de commandes, on épuisait déjà, alors je sais plus si c'était le cobalt ou le lithium ou je sais pas quel autre camelot, que juste en remplissant le carnet de commandes de Tesla, on arrivait déjà quasi à la limite des ressources connues en tel ou tel matériau. Quoi. Si on veut une massification de la voiture électrique, pour qu'on en ait autant que les voitures thermiques aujourd'hui, comment on fait quoi?
Écoutez, je ne fais pas de l'exploitation de minerais, mais je pense que c'est un vrai faux problème. Étant donné que les batteries font que d'évoluer et que les batteries d'aujourd'hui ne sont pas les batteries d'il y a encore 2 ou 3 ans qu'on avait dans les voitures et ne seront pas les batteries qu'on va avoir dans 4 ou 5 ans dans les voitures. C'est un mode de propulsion et un mode de stockage d'énergie qui est relativement neuf et propre. Aujourd'hui, on parle de batterie lithium-ion. Demain, on va parler de batterie solide qui va être du type graphène ou des choses comme ça. Et donc, ensuite, en fonction de l'utilisation du coup que vous voulez avoir, de la façon dont vous voulez recharger votre véhicule, vous aurez des batteries qui auront différentes technologies. Ensuite, aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on a 20 000 bornes de recharge sur l'ensemble du territoire France. On devrait monter à 100 000 d'ici 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, le véhicule électrique n'est pas le véhicule de demain, mais c'est le véhicule d'aujourd'hui.
La langue de bois, la langue de bois, pour dire qu'on triche avec les mots, pour dire qu'on ment, et de surcroît, qu'on insulte aussi les hormones. Faut-il que l'homme soit macabre pour blasphémer la langue d'arbre, la langue du bois, la langue du bois, la langue de bois, la langue de bois pour désigner paroles vaines et insulter ma fibre à moi, la sève qui vit dans mes veines. Jactez, beaux messieurs, sans remords, vous valez pas un sycomore, la langue du bois. Yemma. Les arbres parlent plusieurs langues, selon les sens, le ciel, l'endroit. Le poids de l'un prononce mangue, le poids de l'autre dicte la noix. La langue de bois, la langue de bois. Et quand ses branches se déchaînent, quoi de plus beau qu'un bois d'épine qui offre le fruit de la joie. La langue du bois. Yemma. Petit chanteur à la croix de moi, de la croix de moi dont on fait les arbres, aux quatre bouts de moi veiné comme du marbre, et de toutes mes feuilles dont je connais le poids, des branches aux racines, de la basse à la cime, je chante ma langue de bois, perché sur du racine. Yeah. Des branches aux racines, de la basse à la cime, je chante ma langue blanche, perché sur le champ
Claude Nougaro, Langue de bois, extrait du dernier album publié de son vivant, Embarquement immédiat, ici dans un enregistrement public de 2001 au Théâtre des Champs-Élysées. Retour à la première édition de la fête de l'écomobilité à Mer. Après ce petit tour dans la bagnole du futur, me revoilà sur le parvis de la Halle aux Grains, au milieu de stands de constructeurs automobiles. À l'intérieur, une exposition sur les nouvelles mobilités porte ce discret encadré dans un coin de l'un de ses panneaux. La généralisation des véhicules électriques ne peut se faire qu'en réduisant massivement le nombre de véhicules en déplacement et si l'on produit de l'électricité relativement propre et peu chère. Fin de citation. Juste à côté, les membres de l'association Vélo 41 ont remorqué leur atelier de réparation mobile à bicyclette depuis Blois, soit une bonne vingtaine de kilomètres. Pour rappel, en France, un trajet automobile sur 4 est inférieur à 3 km, une proportion qui grimpe à 40% en agglomération. Pire, 58% des trajets domicile-travail de moins d'un kilomètre se font en voiture. On écoute Masato Fujisaki, membre de Vélo 41 et par ailleurs bénévole à Studio ZEF.
On est une association qui fait la promotion du vélo d'une manière générale. Donc ça se fait de plusieurs manières. D'abord par la défense de la place du cycliste dans la ville. Donc on essaie d'être un peu force de proposition sur les aménagements cyclables qu'il peut y avoir dans l'agglo. Donc on essaie de rencontrer les élus, les techniciens sur différents petits des questions d'aménagement cyclable. Et ensuite, notre autre action qui est l'action principale de l'association, c'est l'atelier d'autoréparation de vélo. C'est donc un atelier d'autoréparation. Donc l'idée, c'est d'apprendre aux adhérents de l'association à réparer eux-mêmes leur vélo. Donc on a tout un tas d'outils assez spécifiques au vélo que les gens n'ont pas forcément chez eux. Et on a aussi des bénévoles qui sont assez calés sur différents types de réparation de vélo et qui donc encadrent et aident les adhérents à réparer eux-mêmes leur vélo. En tout cas, ça permet une grande visibilité à l'association et surtout ça nous permet, je trouve, une action concrète et efficace sur la possibilité de remettre des gens en selle sur leur vélo, quoi. Donc souvent, on a des gens qui ont un vélo qui a juste un tout petit problème de frein ou de chambre à air, un pneu crevé, quoi. Et ça va être un frein pour se remettre sur son vélo et de se dire, voilà, je vais... Et du coup, les gens se retrouvent à prendre la voiture ou à faire le trajet à pied et délaissent le vélo. Pour moi, l'atelier de vélo, et donc, c'est vraiment voilà, se réapproprier la maîtrise de ce véhicule, quoi, et de sa mécanique. Et pour moi, c'est donc une manière de défendre la place du vélo en ville, enfin, voilà, qu'on soit un vrai outil de mobilité, quoi. Donc, tu vois le fonctionnement d'une roue, en fait. Donc t'as ta jante et t'as tes rayons qui vont tirer de chaque côté.
Pour qu'elle reste bien ronde.
Pour qu'elle reste bien ronde et qu'elle n'aille pas à partir d'un côté. Quand il y a un voile, ça veut dire qu'il y a eu déjà un choc et ensuite ça a perturbé l'équilibre. Et ça veut dire que tu peux en gros rétablir cet équilibre-là en tirant sur les rayons dans le sens opposé. Tu vois. Et donc là, l'idée c'est de trouver où est-ce que ta jambe donc, qui est voilée.
Pour modifier un rayon.
Pour aller tirer le rayon dans le sens opposé. Quoi. Le truc c'est que c'est super léger là.
Ouais, c'est clair que c'est léger, sinon j'aurais pris une autre.
En fait, c'est juste avant le bouchon d'air.
Juste avant le bouchon d'air.
Oui.
Moi, j'ai l'impression qu'il y en a un peu ici.
Ouais.
Attends. Je vais voir. Un petit peu là. Au moins, il y en a un petit peu là ici. Donc, tu vois, là, ça veut dire que ta roue. Donc là, je mets mon ongle pour voir où est-ce que ça frotte. Ça veut dire qu'elle va un petit peu par là. Donc ça veut dire qu'il faut tirer les rayons qui vont dans ce sens-là. Donc c'est toujours par deux que ça marche, donc c'est ces deux-là, éventuellement celui-là.
Et du coup, comment on fait pour les tirer
et en fait, si tu veux, tu as une vis qui est derrière dans la jambe. Si tu as déjà démonté une roue, tu peux voir que tu as une vis de l'autre côté. Et donc là, il faut visser dans ce sens-là, et du coup, ça va tendre le rayon.
D'accord. Donc il faut enlever le pneu.
Non, tu visses avec ça. Là, tu vois, tu as un petit écrou. T'as un petit plat là.
Oui, on n'a pas besoin d'accéder directement à la vis à l'intérieur de la jante.
Donc, c'est ce clairement, je la connais pas. Ralentir la vitesse, enfin la présence des véhicules en ville, c'est souvent un frein pour beaucoup de personnes pour se mettre en selle. Et justement, le ralentissement de la vitesse, bon, on a par exemple la rue Denis Papin là, qui est passée en zone partagée. Donc tout à 20 ou 30 km/h, je sais déjà plus. Et on ne fait pas d'aménagement particulier, mais on ralentit la vitesse. Et on dit, voilà, tout le monde peut se croiser, il y a quand même une priorité, une hiérarchie dans les priorités, d'abord les piétons, ensuite les vélos, ensuite les voitures. La vitesse est ralentie, le risque d'accident est diminué, quoi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui serait intéressant à généraliser à plus de zones.
Oui, même si les accidents sont toujours là, on passe d'un accident grave à un accrochage. Quoi.
Un accrochage et surtout à accepter plus facilement la présence de l'autre et ne pas être sur des voies... C'est une autre approche qui s'entend très bien aussi, hein, qu'ils ont développée dans les pays... un peu plus au nord de chez nous, donc avec les autoroutes cyclables, des voies cyclables très marquées sur lesquelles on ne s'arrête jamais, mais qui permet de traverser une ville de manière très efficace. Mais moi, je tendrais plutôt vers l'autre approche où c'est de mélanger au maximum les flux, qu'on soit attentif au maximum les uns aux autres. Et c'est pour moi la manière dont la ville pourra être plus sécurisée pour tous. C'est quand même moins coûteux quoi, de rassembler tous les travaux de voirie sur un seul espace plutôt que de diviser, de faire d'un côté une voirie, ensuite une bande plantée, ensuite une piste cyclable par exemple. Et ensuite, l'autre aspect, pour moi, ce serait d'un point de vue esthétique où toujours la séparation des flux vient créer tout un... On va créer tout un tas de dispositifs pour démarquer les espaces de chacun, donc comme des potelés, des rambardes, des bandes plantées, des choses comme ça. Et le fait d'être sur une ville où on a beaucoup plus de voies partagées, ça fait qu'on simplifie la lecture de l'espace et donc on va gagner en qualité esthétique pour moi. Et voilà, ça permet aussi d'apprendre à être plus souple, d'apprendre à accepter l'autre. C'est pour moi une voie plus intéressante. Ouais.
Qu'est-ce que vous attendez finalement de l'ensemble de ces mesures, donc à la fois de communication comme aujourd'hui, mais aussi des mesures plus concrètes?
On vise clairement les changements de comportement, mais ça on sait que c'est très compliqué, c'est long, que c'est pas en une fête que ça va être fait. Voilà, c'est des rappels réguliers, de la promotion régulière, de l'information, donner l'exemple aussi, ce qu'on essaye de faire nous au niveau de la mairie. Et c'est vraiment ça, aider les gens à changer de comportement, à prendre conscience, et puis après leur donner les clés pour changer leur comportement.
Okay.
Oui, nous avons en charge de mettre en place le plan climat, mais il faut que chacun s'approprie aussi ce plan-là.
Ouais, les enjeux.
Les enjeux sont...
Sachant que sur notre territoire, les déplacements représentent 50% de nos émissions de gaz à effet de serre, donc c'est vraiment un sujet chez nous, les déplacements.
Très bien. Et donc, pourquoi c'est difficile de changer les mentalités, entre guillemets ? Quels obstacles il y a aujourd'hui au développement de mobilité plus douce, et qu'est-ce qui favorise, qu'est-ce qui incite encore les gens à adopter des mobilités plus conventionnelles ?
Les changements de comportement, on sait tous que c'est vachement dur de changer sur tous les sujets. Et puis il y a le confort de la voiture, le confort d'être seul dans sa voiture, d'aller où on veut quand on veut, des a priori aussi. On s'imagine que ça va être compliqué de faire du covoiturage, que le vélo finalement on peut pas en faire souvent parce que à cause du temps. Voilà, après il y a des a priori, des choses à dépasser. Puis je crois que c'est aussi en voyant les choses bouger autour de nous, par l'exemple, qu'on change. Voilà, quand on connaît quelqu'un qui le fait, on se dit finalement, ça a l'air d'être plutôt sympa de se déplacer comme ça.
Pour Nathalie Pommier et Cécile Greffion, respectivement adjointe au maire et chargée de mission au développement durable, l'écomobilité reposerait donc sur un changement de comportement des individus. Un changement que la municipalité accompagne avec des voies cyclables, des équipements anti-vol, des subventions à l'achat de vélos électriques, des aménagements encourageant le covoiturage, des systèmes de ramassage scolaire pédestre et donc avec l'organisation de cette fête de l'écomobilité. Mais comme on l'a vu en début d'émission, malgré cette volonté affichée, Mer reste un paradis de la bagnole avec des rues surchargées en heure de pointe et désespérément vides le reste du temps. Nulle part la circulation automobile n'est contrainte au profit de voies piétonnes ou cyclistes. Pendant ce reportage, plusieurs Mérois m'ont fait comprendre que remettre en cause la pertinence ou ne serait-ce que la gratuité des espaces de stationnement de centre-ville relèverait presque du délit d'opinion pour la municipalité en place. Ce qui n'a pas empêché les commerces de fermer les uns après les autres. En effet, les problèmes de destruction paysagère, de pollution aux particules fines, de ségrégation sociale et spatiale, d'étalement urbain, d'artificialisation des sols, d'insécurité routière, de déprise commerciale des centres-villes et des bourgs ruraux sont tous la conséquence directe de l'hégémonie de la voiture individuelle privative sur nos modes de déplacement. Mobilité, mais aussi habitat, consommation, divertissement doit faire l'objet d'une remise en question et même d'un projet politique. Car tant que la ville et le territoire dans son ensemble restent pensés pour l'utilisation systématique de la voiture, les innovations technologiques et les incitations secondaires mises en place par les collectivités locales n'auront qu'un effet marginal sur le comportement des citoyens. Et c'est la fin de cette 30e émission. Retrouvez ce reportage en podcast dans la rubrique Feuilles vives du site studiozef.fr. Le samedi 25 août prochain, l'équipe de l'émission sera en direct du festival Vienne en goguette au métairie du Pont Saint-Michel pour un dernier plateau radio sur l'agriculture urbaine et les liens qu'elle tisse avec ses consommateurs et les habitants. Toutes les infos sur le site de l'émission et sur la page Facebook de Studio Zef. Bon week-end et à bientôt.
Un bon fermier découvrit un matin, dans sa basse-cour, une poule fort étrange.
Viens donc, Mélie, viens en voir, je croyais en main que la noiraude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante, mais tout ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute-la, elle fait... Wow.